Le 24 novembre 2022 est une date à marquer d'une pierre blanche pour les Alpes de Haute-Provence. Ce jour-là, la CRESPACA, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, en partenariat étroit avec la ville de Digne et Provence-Alpes Agglomération, organisait les premières assises départementales de l'ESS à Digne. Le secteur est important dans le 04, près de 6000 salariés pour 5044 équivalents temps plein, répartis dans 815 associations, 90 coopératives, 39 mutuelles et une fondation. Dans le 04, l'ESS, c'est un emploi privé sur 5. Et au-delà, mais toujours en proximité, les Alpes de Haute-Provence regroupent 4835 associations, essentiellement dans l'action sociale, 804 coopératives, 220 mutuelles et 57 fondations. Ce secteur, qui n'engrange pas de profit et ne rémunère pas d'actionnaires, œuvre dans les services à la personne, lutte contre les discriminations, défense de l'environnement et de la biodiversité, action sociale, solidarité, offres touristiques, animations culturelles, pratiques sportives, etc. Tous ces pans de l'activité avaient donc leur vitrine le 24 novembre à Digne. Des ateliers participatifs, conférences thématiques et des stands ont marqué cette journée dignoise. Fréquence Mistral Radio Associative était évidemment présente sur un stand qui a accueilli des visiteurs, auditeurs et partenaires, mais aussi, avec Odile Frison, nous avons réalisé plusieurs interviews que nous vous proposons d'écouter au cours de cette émission spéciale. Première personne que nous allons entendre, le directeur de la CRESPACA, David Ekel, qui a salué le travail réalisé par la délégation départementale du 04 que préside Jérôme Martinez, puis partenaires essentiels, la ville de Digne et Provence-Alpes Agglomération. Patricia Granet-Brunello entend bien renouveler l'événement et nous entendrons également Laetitia Serena Bidalo, directrice du CIDFF 04, qui a reçu les prix départemental et régional de l'ESS pendant ses assises. David Ekel, vous dirigez la CRESPACA, la CRES qui a évidemment innervé et soutenu fortement ses assises.
Oui, directeur de la CRES, Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Oui, cet événement est vraiment une satisfaction pour deux raisons. L'économie sociale et solidaire, c'est la proximité. Et donc, s'il n'y a pas d'incarnation, c'est-à-dire s'il n'y a pas de visibilité à l'échelle de la proximité d'un territoire, j'ai le sentiment qu'on parle mal de l'économie sociale et solidaire. Et donc aujourd'hui, c'est une formidable occasion de donner la parole aux acteurs de ce territoire. Et donc, c'est la meilleure manière de parler de l'économie sociale et solidaire. C'est une première édition. Elle est prometteuse déjà en nombre d'exposants et en mobilisation, en fait, de l'écosystème des structures qui composent l'ESS de ce territoire. Il faudra après lui donner des ambitions en termes de visitora dans les années futures, parce que je suis d'ores et déjà convaincu qu'il y aura des années futures.
Vous avez également participé aux conférences, et des conférences qui ont eu lieu évidemment sur le thème de l'économie sociale et solidaire, mais aussi des fonds européens.
Oui, aujourd'hui il y a un grand effort, enfin à mon sens un grand effort de pédagogie à faire sur qu'est-ce que l'Europe et qu'est-ce que le projet européen peut favoriser ou permettre pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Alors on a souvent un raccourci de se dire l'Europe c'est d'abord de l'argent. En fait, on est venu expliquer ici que l'Europe, c'est d'abord un projet, que ce projet, en fait, souvent, il rejoint des priorités du projet européen. Et parce que les projets de l'ESS sont souvent en correspondance avec des priorités européennes, ça permet effectivement de bâtir, souvent dans la coopération entre entreprises de l'ESS, des projets qui, effectivement, pourront trouver des soutiens financiers, notamment, auprès des crédits et des fonds européens. Ça passe par cette étape qui est de réexpliquer qu'est-ce que le projet européen et de mettre encore une fois en correspondance l'ensemble notamment des ambitions de nos organisations d'ESS en matière de réponse aux besoins sociaux, aux besoins sociétaux, en proposition de solutions sur les enjeux de transition écologique, sont inscrits mais à des nombreux endroits des priorités européennes. Et quand on comprend ça, on découvre que l'Europe peut devenir pas simplement un financeur, mais d'abord un partenaire qui ensuite vient financer nos projets.
Et la CRESPACA a d'ailleurs des personnels qui sont susceptibles d'aider les porteurs de projets associatifs, coopératifs.
Complètement, c'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir depuis janvier de cette année ce qu'on a appelé un service Europe, comme ça c'est compréhensible de tous, pour permettre à tout dirigeant d'une structure de l'ESS qui se poserait des questions quant à l'Europe, c'est quoi, est-ce que c'est pour moi, est-ce que ce n'est pas pour moi, de pouvoir d'abord découvrir ce que sont les fonds européens et dans sa découverte, à un moment, être accompagné, s'il le souhaite, à la captation de ce type de crédit.
Patricia Granier-Brunello, vous êtes maire de Digne-les-Bains et également présidente de Provence-Alpes Agglomération. Vous vous êtes entièrement mobilisée avec deux de vos élus, notamment Jérôme Martinez et Francis Kuhn, pour ces assises.
Oui, pour ces premières assises de l'économie sociale et solidaire sur Digne-les-Bains, c'est vrai que j'ai deux élus motivés par le sujet et qui ont vraiment porté toute cette organisation avec vraiment ferveur et à juste titre, puisque l'économie sociale et solidaire est vraiment un atout de développement pour nos territoires, l'économie en soi, hein, mais le social, le solidaire a toute sa valeur, encore plus peut-être de valeur dans la ruralité. Il fallait la valoriser et il fallait créer cette synergie pour que, comme l'économie plus classique, on puisse aussi développer toutes les actions qui en découlent. Je suis vraiment très fière du travail qu'ils ont fait et du travail que la ville et l'agglomération ont porté à leur côté.
Alors ces assises ont permis également à beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire de se rencontrer et voire de travailler ensemble.
Oui, c'est ça l'intérêt, c'est aussi de créer des synergies et cette transversalité qui fait que on va pouvoir être plus fort, avoir des idées, et l'objectif c'est d'échanger et puis d'aller de l'avant et d'aller plus loin dans ce domaine.
Et puis on va conclure aussi avec le prix de l'économie sociale et solidaire, aussi bien départemental que régional, qui a été donné à un organisme que vous connaissez fort bien, c'est le Centre d'information du droit des femmes et des familles, le CIDFF 04.
Oui, c'est vraiment un juste retour des choses et il faut les féliciter parce que d'abord, c'est une équipe super dynamique, super active, vraiment qui s'implique dans des sujets très très compliqués et vraiment avec beaucoup de professionnalisme, de dynamisme, de volonté. Elle mérite, l'équipe, toute l'équipe du CIDFF méritait vraiment ces récompenses.
Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour l'année prochaine ?
Ah oui, très volontiers, j'espère. Il faut, on continue, on persévère.
Laetitia Serena-Bidalo, directrice du CIDFF 04, deux chèques dans la soirée parce que prix de l'économie sociale et solidaire départementale et régionale, je suppose que vous êtes heureuse.
Ah ben, je suis heureuse et fière en fait. Je suis fière qu'on vienne récompenser des projets à destination des femmes qui ont été tant invisibles.
Et puis évidemment, ça salue aussi tout votre travail par rapport aux femmes victimes de violences.
Ça salue notre travail et ça salue leur courage, effectivement.
Demain, en fait, normalement, on célèbre la journée de lutte contre les violences conjugales. C'est une journée pour laquelle vous êtes mobilisée ?
C'est une journée pour laquelle on va mener des actions et notamment on va co-animer avec d'autres partenaires un ciné-débat. C'est plutôt des courts-métrages, hein, d'ailleurs, qu'un ciné-débat. Au cinématographe à Château-Arnoux. En plus de ça, on organise également une campagne de promotion d'un dispositif qui s'appelle le violentomètre. Donc on donne des sacs à main avec un violentomètre sur ce sac à pain-là. Donc on travaille en partenariat avec la Fédération des boulangers pour que chaque baguette qui soit remise pendant cette semaine est un sac à pain avec un violentomètre qui permet de mesurer si on est dans une relation où il y a de la violence.
Est-ce qu'on peut rappeler vos contacts en cas de besoin ?
En cas de besoin, vous pouvez contacter le CIDFF au 04 92 36 08 48. Et si on ne répond pas parce qu'on est fermé ou que c'est trop tard, vous pouvez contacter le 39 19.
Plusieurs officiels, élus, services de l'État et des collectivités territoriales étaient là. Tous ont confirmé leur intérêt pour l'ESS, particulièrement Isabelle Godard de Vaujany pour les finances publiques ou encore Paul-François Chira, secrétaire général de la préfecture de Digne, ravi d'être interviewé par une radio associative. Paul-François Chira, vous êtes secrétaire général de la préfecture des Alpes de Haute-Provence. Vous avez fait un véritable plaidoyer pour l'économie sociale et solidaire.
Absolument, l'économie sociale et solidaire, il y a le mot économie dedans. Ce que beaucoup de gens ont tendance à oublier d'ailleurs, bien sûr, il y a toute une partie de l'économie sociale et solidaire qui est dirigée vers l'action sociale, que l'État finance et que les collectivités publiques financent et qui sont un auxiliaire du service public. Mais il y a la moitié des emplois, il y a la moitié des fonds qui sont générés par des véritables activités économiques rentables et qui ont juste un modèle différent et notamment qui vont calculer la rentabilité de manière différente de ce qu'on fait habituellement.
Votre sentiment sur ces premières assises départementales ?
C'est un succès assez phénoménal. On a 70 exposants, on a des centaines de personnes qui viennent. Je viens juste de croiser et échanger avec des lycéens. Ça permet aussi aux entreprises de se découvrir mutuellement, de voir les partenariats qu'elles peuvent nouer. Ça permet à tous les animateurs de réseau également de créer des liens et de structurer ensemble des actions communes. Donc je crois que c'est une première échéance qui doit être renouvelée.
Vous êtes également interviewé sur une radio associative. Qu'est-ce que ça fait ?
Mais ça fait très plaisir, évidemment. Une radio associative, c'est une radio qui nécessairement est inscrite dans le territoire, qui connaît les personnes et ses auditeurs, et qui sait les sujets qui les intéressent, et qui s'adapte du coup aux besoins du territoire. Et d'ailleurs, l'économie sociale et solidaire, c'est aussi ça, c'est précisément une occasion de relocaliser de l'activité sur le territoire pour répondre à des besoins que d'autres activités économiques ne parviennent pas à satisfaire.
Isabelle Godard de Vaujany, vous dirigez les finances publiques dans les Alpes de Haute-Provence. La raison de votre présence aux Assises de l'économie sociale et solidaire ?
Bah écoutez, cette économie est une économie qui prend de plus en plus d'importance dans notre milieu économique local. À une époque, l'économie sociale et solidaire avait un peu l'image d'entrepreneurs un peu doux rêveurs avec des grands projets qui manquaient parfois de réalisme et qui étaient plus idéalistes qu'économiques. Et aujourd'hui, on voit bien qu'au fil des années, cette image-là et cette réalité a beaucoup évolué. Aujourd'hui, nous avons des entrepreneurs au sens plein du terme qui se préoccupent de mener une activité peut-être pas rentable pour la pure rentabilité, mais en tout cas tout en gardant un objectif vertueux socialement, qui n'a pas peur non plus de chercher des budgets, de chercher du chiffre d'affaires pour obéir à une finalité vertueuse. Donc la raison de ma présence ici, c'est tout simplement pour marquer la présence de l'État et du ministère de l'économie et des finances. D'ailleurs, un secrétariat d'État est dédié à cette économie et il me semblait important, voire indispensable, de marquer par la présence de la DDFIP et de M. Vigne, qui est le responsable départemental du service des entreprises dans ce département, de marquer toute l'importance et la considération que nous avons pour ces modalités d'activité économique.
Vous l'avez dit, il y a une certaine évolution. À une époque, on parlait d'entreprise, mais aujourd'hui, on parle maintenant d'entreprise sociale et solidaire. Ça n'est plus une grossièreté qu'on pouvait sortir. Ça représente également une richesse fiscale pour le département.
Justement, le point que j'ai pu préciser, c'est que fiscalement, en effet, certaines de ces structures, quelle que soit leur dénomination juridique, que ce soit des fondations, des associations, des coopératives, certaines de ces structures peuvent être fiscalisées. D'autres non. Parfois, la frontière entre les deux, la frontière de la lucrativité entre les deux est un peu ténue. Et l'objectif de M. Vigne et de moi-même par notre présence, c'est de bien rappeler que la direction des finances publiques et le service d'impôt des entreprises sont là pour répondre avec précision aux questions que peuvent se poser des créateurs d'entreprises sociales et solidaires. S'ils ont le moindre doute sur le fait que telle activité de vente de produits doit être fiscalisée ou pas, ils ont un correspondant à la DDFIP qui étudiera le projet avec eux et qui répondra oui ou non à travers un rescrit, c'est-à-dire un document qui donne une sécurité juridique à notre réponse. On répondra oui ou non, ça c'est fiscalisé, ça ne l'est pas. Donc encore une fois, nous sommes pleinement associés au projet des créateurs d'entreprises dans l'économie sociale et solidaire et nous avons des correspondants pour aider la réussite de ces projets.
Agnès Rossi, vous êtes conseillère régionale en charge de l'économie sociale et solidaire. Quel regard vous portez sur ces assises départementales ?
C'est un regard, on va dire, bienveillant et extrêmement heureuse de voir que sur les territoires ruraux alpins, nous avons des salons, des assises pour l'économie sociale et solidaire qui sont tout à fait impressionnants. 62 exposants, des échanges, des entreprises travaillant dans divers domaines. Et vraiment, je suis très fière d'avoir pu participer à ces premières assises.
C'est un secteur que vous connaissez bien et vous avez fait le tour de la plupart des stands.
Oui, volontiers, parce que je pense que quand on est une élue déléguée à l'économie sociale et solidaire, qui est une économie de proximité qui répond à des besoins sociaux, il est important de rencontrer les acteurs, de les écouter, de comprendre qu'est-ce qui les a amenés à travailler dans ce domaine et comment aujourd'hui ils participent à cette économie si importante. Et sur les Alpes de Haute-Provence, je rappelle que c'est 20% de l'emploi privé.
La région Sud est aux côtés des associations mutuelles et coopératives.
Oui, pour nous, ce sont des entreprises, quel qu'en soit leur statut, que ce soit des associations,
des coopératives, des fondations et même d'entreprises à mission. Nous, l'économie sociale et solidaire est une économie innovante qui a l'agilité et la capacité à tester, à être en proximité. Ce sont des emplois non délocalisables, ce qui est extrêmement important. Donc, bien sûr, nous sommes aux côtés de l'ensemble de ces structures.
Vous êtes vous-même originaire des Hautes-Alpes et l'économie sociale et solidaire dans le 04 et le 05, c'est surtout dans les zones rurales qu'elle est très présente et efficace.
L'efficacité, ça sera, je pense, à le dire aux personnes à qui on rend ces services. Et je pense que quand on voit le nombre d'employés, le nombre de salariés, on peut dire que c'est une réussite. Oui, les territoires ruraux ont besoin de l'économie sociale et solidaire, mais je pense que également, si on regarde Marseille, et je veux juste faire cette petite aparté, qui est quand même une énorme métropole, aujourd'hui, on a un pourcentage de l'emploi de l'économie sociale et solidaire qui est supérieur à 25%. Donc les besoins sont toujours importants, en proximité, pour un grand nombre de populations, que ce soit des ruraux ou des métropolitains.
Pierre Catillon, vous représentez le département des Alpes de Haute-Provence, très au fait de ces questions de l'ESS.
Oui, c'est un sujet qui est primordial pour le département et pour la présidente du département. On a un vrai besoin de l'ESS sur le département. La preuve en est, un emploi sur cinq dans ce département dépend de l'ESS. Maintenant, il faut trouver comment articuler l'ensemble des acteurs de l'ESS et c'est à quoi sert aujourd'hui ces assises.
On a vu que plus de la moitié des acteurs de l'ESS travaillent dans le domaine du social. Et le social, c'est justement le secteur privilégié du département.
Tout à fait, c'est la compétence, une des compétences majeures en tout cas du département sur lequel on est aux côtés de l'ESS. Maintenant, l'objectif est toujours le même. Au moins, il y aura de présence sociale sur le département. Au moins, il y aura de besoins sociaux sur le département. Alors, le débat n'est pas du tout de retirer l'action sociale au département. Le débat est de trouver la solution pour faire sortir de ce dispositif-là les bénéficiaires et les accompagner sur des chemins plus pérennes. Chose qu'on fait par exemple avec les bénéficiaires du RSA. Depuis notre arrivée à la tête du département, les bénéficiaires du RSA ont baissé. Non pas parce qu'on a sorti des gens manu militari du dispositif, mais parce qu'on les a accompagnés avec des dispositifs innovants vers l'emploi notamment.
Vous avez fait le tour des stands ici au Palais des Congrès. Qu'en avez-vous retenu ?
Une grande diversité, la présence d'énormément d'acteurs, autant sociaux que touristiques, écologistes. Et c'est ce qui prouve aussi la pluralité de l'économie sociale et solidaire qui a vocation à être connue et reconnue sur le territoire du département.
Est-ce que vous me permettez de parler de vous personnellement puisque vous travaillez vous-même dans l'ESS ?
Oui, tout à fait. Merci de le souligner. Moi, je suis éducateur dans la vie de tous les jours, éducateur sur un accueil de jour pour sans domicile fixe à Digne. Et c'est aussi en partie pour ça que je suis présent aujourd'hui, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et prouver que c'est aussi une action qui permet l'emploi sur notre territoire et qu'il faut valoriser.
Et c'est le cas actuellement.
C'est le cas actuellement. On sait que c'est une branche de l'économie qui emploie et qui doit s'adosser aussi à l'économie dite classique. Je pense qu'il faut qu'on arrive à une époque où on n'oppose pas ESS et entreprise classique.
Nous avons aussi été à la rencontre des présents, parmi lesquels la Chambre de métiers au service des artisans, Mission locale pour les moins de 26 ans, la Populaire, association importante de services à la personne, les Mutuelles de France qui développent des mutuelles communales dans les départements alpins, un gîte en autoconstruction à Marcoux qui accueille des personnes à mobilité réduite, la Nébuleuse, une structure de développement personnel, Lola Vera, qui œuvre dans l'alimentation durable et la prévention santé, mais d'abord, et parce que son buffet a été victime de son succès, la cuisine de Caroline.
La cuisine de Caroline, je suis basée à Champtercier. Nous sommes à deux à travailler avec mon mari. On a ouvert l'entreprise il y a un an et demi, et donc on fait tout ce qui est prestataire extérieur, miniardises apéritives, buffet froid, buffet chaud, et tout ce qui est voilà, avec les entreprises également.
Par exemple, vous proposez comme buffet ?
Alors là, pour ce qui est du buffet aujourd'hui, on a droit au petit burger, aux navettes. On est sur un buffet qui est 100% végétarien, donc on n'a vraiment aucune viande. Les petits burgers, voilà, ils sont faits avec la viande végétale également, donc on est vraiment sur des produits très sympas à déguster. On a des petites verrines, on a les navettes, on a fait des wraps aux chèvres. Voilà, donc on a vraiment un buffet assez varié aujourd'hui.
Vous préparez des buffets pour des entreprises ou est-ce que les particuliers peuvent faire appel à vous ?
Alors on travaille également avec les particuliers, on propose les brunchs donc la semaine également, donc les petits déjeuners sucrés-salés ou sucrés également. Et voilà, donc on est vraiment diversifié dans l'apéritif dînatoire jusqu'au repas chaud. On travaille avec les entreprises mais aussi bien que les particuliers.
Mais vous n'avez pas une structure où on peut aller manger chez vous ?
Alors non, on a un laboratoire qui est basé à Champtercier directement, mais on ne fait que de la préparation dans ce laboratoire. Nous, on ne s'occupe que des livraisons et que des prestations sur place.
Vous avez un site ?
Alors directement sur Facebook, on a la page La Cuisine de Caroline, sur Instagram également La Cuisine de Caroline 04, et par téléphone également au 06 12 38 96 99.
Et c'est préparé avec des produits locaux ?
On essaie de travailler au maximum avec les produits locaux. Pour ce qui est de la viande végétale, malheureusement, ce n'est pas possible. Mais au maximum, au niveau des fruits et légumes, on travaille avec les fournisseurs du 04.
Je suis Mathieu, je suis le chargé du développement économique de la région 04. Je travaille pour la Chambre des métiers et de l'artisanat de Digne-les-Bains. Et je voulais annoncer mes services dans le sens où je propose gratuitement à tous les artisans de la région PACA un diagnostic numérique, donc qui est sous forme d'une discussion de 1h30 en moyenne. Et le but, c'est de faire un bilan de la présence sur Internet d'un commerçant ou d'un artisan, de lui proposer que des conseils et que des astuces, et de l'orienter dans tous les besoins qu'il aurait au parallèle de la gestion, du digital, et aussi s'ils ont besoin de recruter des apprentis.
Vous êtes financé par qui ?
Cette action est financée par l'État. Elle est distribuée au travers de la Chambre des métiers de l'artisanat de Digne-les-Bains, et tous les artisans sur le 04 peuvent en bénéficier gratuitement.
Et pour ça, donc, il faut vous contacter ?
Il faut tout simplement appeler la Chambre des métiers, qui après se charge de mettre en relation avec un conseiller numérique qui se déplace à l'entreprise ou dans l'atelier de l'artisan.
Marie-Claude Lombard, vous dirigez Mission Locale. Quel est le rôle de votre structure ?
La Mission Locale, c'est une structure départementale qui accueille et accompagne tout jeune de 16 à 25 ans qui ne sont plus scolarisés et qui ont un projet de vie, qui recherchent de l'emploi, qui recherchent de la formation, qui ont d'autres questionnements, d'autres demandes. Voilà, on est au service de tous les jeunes du territoire.
C'est un accompagnement individuel ?
C'est un accompagnement individuel et on va mobiliser l'ensemble des dispositifs, l'ensemble des partenaires. On est un petit peu un fil conducteur, un guide pour orienter le jeune et l'accompagner dans son projet. Finalité emploi, mais c'est aussi tout autre, puisque tous les besoins périphériques, la santé, le logement, la mobilité, on est au service des jeunes.
Vous devez aussi, je suppose, travailler en partenariat avec les services de l'État, les collectivités territoriales ?
On travaille en partenariat avec le conseil départemental, avec le conseil régional, avec les services de l'État, puisque nous mettons en œuvre l'ensemble de leurs dispositifs liés à la jeunesse, notamment l'actualité de 2022, c'est le contrat engagement jeune. Et également avec les collectivités et toutes les structures, dont toutes les structures de l'économie sociale et solidaire.
Mission Locale est présente sur le territoire des Alpes de Haute-Provence en plusieurs endroits.
Nous avons 3 antennes permanentes à Digne, Manosque et Saint-Auban. Et ensuite, nous assurons 14 permanences décentralisées sur l'ensemble du département. Donc là, on va vers les jeunes. C'est la volonté politique de la structure d'aller vers et sur les territoires les plus excentrés, parce que c'est important d'aller à la rencontre des jeunes.
Vous connaissez bien les problèmes liés à la jeunesse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation ? Est-ce que vous avez des solutions ?
Alors, les solutions, elles existent. Je crois qu'il faut vraiment communiquer auprès des jeunes pour leur dire « les solutions existent ». Il ne faut pas avoir peur d'y aller, même si on sent que cela est contraignant, même si ça demande des démarches administratives très fortes. Mais il faut vraiment venir parce que les solutions existent. L'économie, elle est quand même positive, donc de l'emploi, il peut y en avoir. Et après, on va accompagner le jeune pour être au mieux. Mais je crois qu'il faut aussi rassurer les jeunes. Il faut leur faire croire en l'avenir parce que c'est cette difficulté-là. Les jeunes ne croient plus en l'avenir, ils ont peur. C'est là où il faut être avec eux, auprès d'eux. Mais il faut aussi le faire avec les jeunes, et ce sont les jeunes qui le feront. Donc on mène aussi des actions de façon à ce que les jeunes parlent aux autres jeunes pour communiquer sur tout ce qui existe.
Il y a donc un suivi des jeunes qui sont passés à Mission Locale.
Alors les jeunes sont accompagnés sur toute la durée de leur parcours, selon leur volonté. On est là, quelle que soit leur situation, et même lorsqu'ils sont en situation, on continue à être à leur côté. Donc on assure aussi un accompagnement avec un jeune dans une entreprise et on rend service aussi aux entreprises. Là aussi, c'est important de le savoir. On peut être présent auprès de l'entreprise et du jeune pour les accompagner à ce que le jeune soit au mieux dans l'entreprise pour régler des difficultés périphériques. Les services qu'on propose, on est vraiment sur alors, ce qu'on appelle les accompagnements individualisés, mais c'est très important pour nous de créer une relation de confiance avec les jeunes. Ils restent acteurs de leur parcours, mais on est à leur côté et il y a vraiment une relation de confiance qui se crée. Et c'est vrai que des jeunes, au-delà de leur 26e anniversaire où on ne peut plus intervenir pour eux, on reste pour nombreux en contact. On garde de très bons contacts avec des jeunes. On est maintenant, on connaît les enfants des jeunes. Voilà, ça fait 40 ans qu'on est là. Ce sont de belles aventures et on connaît encore beaucoup de jeunes.
Je suis Madame Alvar Elodie, donc je suis la responsable de secteur de l'association La Populaire sur le siège à Digne-les-Bains.
Voilà, moi je suis Cathy Carmona, la directrice de l'association La Populaire, qui intervient sur une grande partie du département du 04. Avec trois agences, donc le siège est à Digne, on a un bureau à Château-Arnoux et le troisième à Manosque.
La Populaire existe depuis de nombreuses années.
Depuis l'année 71.
C'est un service d'aide à la personne.
Tout à fait, donc d'aide et d'accompagnement à la personne. On intervient donc sur un public essentiellement âgé avec des prises en charge du conseil départemental, APAP et MPA, PCH, et quelques interventions auprès de personnes en situation de handicap.
Donc les objectifs de la Populaire ?
C'est le maintien à domicile, en priorité. Donc, on a un panel de salariés en partant de l'aide à domicile, assistante de vie aux familles et auxiliaire de vie. On intervient voilà, autant pour du ménage que pour de la préparation des repas, de l'aide aux repas, de l'accompagnement aux courses et divers accompagnements.
Des accompagnements donc, qui sont financés par qui ?
Majoritairement, c'est financé déjà par le département, par le biais de, par exemple, l'APA. Et ensuite, on a les caisses de retraite qui interviennent beaucoup dans le financement et ensuite diverses mutuelles.
Par rapport à la DMR, est-ce que ce sont deux structures qui ont les mêmes objectifs ?
Oui, on est des structures similaires, on a les mêmes objectifs, donc promouvoir le maintien à domicile. Après, c'est juste le nom de la structure qui change.
Et on a les mêmes difficultés aussi.
Oui, voilà.
Quelles difficultés ?
De recrutement, essentiellement, oui. On n'arrive pas à trouver de personnel, on est encore soumis à l'obligation vaccinale et c'est un gros problème en fait.
Les effectifs des salariés ?
Il y a des personnels, oui, qui sont partis, mais c'est pas que ça a chuté, c'est qu'on n'arrive pas à recruter. On a des départs divers d'inaptitude et de départ à la retraite et on n'arrive pas en fait à recruter.
Pour l'instant, les personnes que vous avez en tant que salariés, c'est plutôt un public de personnes jeunes, âgées ?
Pas spécialement jeune, je dirais. Une grosse partie, c'est à partir de 50 ans, 50 ans et plus, en grande majorité.
Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi il n'y a pas de personnes intéressées pour ce type de travail ? Il faut une formation, est-ce que c'est suffisamment rémunéré ?
Non, c'est pas suffisamment rémunéré, c'est pas reconnu, c'est un métier qui est difficile et usant.
Donc aujourd'hui, ce serait un appel pour recruter ?
Oui.
Oui, voilà, donc essentiellement la difficulté, que ça soit aussi bien une aide à domicile qu'une auxiliaire de vie, un salarié diplômé, c'est la difficulté du recrutement. Donc comme elle a dit, Madame Carmona, donc, ça a été l'obligation vaccinale qui a encore plus creusé le fossé avec l'embauche. Mais ça, je pense que c'est un peu tous les secteurs d'activité qui sont dans ce cas-là. Et de par le métier, la difficulté et la rémunération qui est assez faible et le travail qui est très difficile. Donc c'est favoriser éventuellement les formations, mieux faire connaître le métier, en parler un peu plus. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'a priori aussi, beaucoup de par la rémunération, de méfiance. Donc essayer de mieux communiquer là-dessus, je pense.
Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'un nombre de salariés ?
Il y a 90 salariés sur l'association, ça représente 600 bénéficiaires sur le territoire, sur l'ensemble du 04.
Et vous aimeriez qu'il y ait combien de salariés ?
Il en manque sur le secteur des Dignes et sur le secteur de Manosque. Sur Manosque, il doit manquer peut-être un équivalent temps plein, deux équivalents temps plein sur Manosque.
Là, sur Digne, il y a au moins trois équivalents temps plein qui partent à la retraite et en inaptitude. Donc voilà, c'est ça qui manque. Et surtout, la qualification.
Qu'est-ce qu'il faut comme qualification ?
Nous, on travaille beaucoup avec la Ligue de l'enseignement qui propose des formations d'assistante de vie aux familles, ou sinon on peut passer par le biais de la VAE. Et pour auxiliaire de vie, voilà, c'est une formation aussi qualifiante.
VAE, qu'est-ce que c'est ?
C'est une validation d'acquis d'expérience. Donc voilà, si la salariée est depuis un certain nombre d'années au sein de la structure et a effectué justement le poste d'aide à domicile avec des tâches un peu plus pointues, on va dire, elle peut prétendre à une VAE pour passer un diplôme qualifiant.
En général, pour le maintien à domicile, qui fait appel à vous ? C'est la famille
Principalement le CLIC. Voilà, qui est un de nos partenaires principaux. Ensuite, ça peut être la famille directement, qui a une prise en charge de par le département et qui s'adresse directement à nous, ou alors le département qui font appel à nous également.
Est-ce qu'il y a un bilan à faire sur les années passées de la Populaire, de ses actions ?
Mais ça fait quelques années que la Populaire est en difficulté. On essaye de surmonter ça. On est passé en effet par la crise sanitaire a fait qu'aggraver les difficultés. On essaye de voir le bout du chemin et on y croit.
Les mutuelles de France vont développer des mutuelles municipales. Jean-Claude Hérault pour le 05 et puis Rémi Charpie pour le 04. Pourquoi cette dynamique ?
C'est une dynamique qui répond à des besoins. Aujourd'hui, on s'est aperçu dans nos communes, surtout en ruralité, qu'il y a à peu près 10% de gens qui n'ont pas de mutuelle ou qui sont mal mutualisés. Il y a eu des besoins qui sont apparus. Les maires qui ont constaté l'évolution de ces besoins ont sollicité la mutualité française. La mutualité française a interrogé toutes les mutuelles du 0405 et les mutuelles de France ont répondu à cet appel. On a été les seuls à répondre, ou je crois quasiment les seuls à répondre, ou à répondre du moins au cahier des charges qui nous était imposé par les communes. Et du coup, on a répondu et on a été retenu dans pas mal de communes, dans le 04 et dans le 05. Dans le 05, on est en train, par exemple, depuis une semaine, à travailler avec la mairie de Serres, mais pas uniquement la mairie de Serres, puisqu'il y a 26 communes qui viennent se rajouter à la mairie de Serres, sur lesquelles on va pouvoir développer ces fameuses... On appelle ça une mutuelle communale, mais en fait, c'est la mutuelle des administrés, le vrai terme.
Comment est-ce que vous le faites savoir, justement, ces administrés ?
Ah ben, il y a tout un travail par les communes. Hein. Les communes, là, par exemple, on va organiser, à partir d'aujourd'hui, d'ailleurs, à Serres, des permanences par notre conseiller mutualiste qui s'occupe du secteur du 05. C'est pour ça que Rémi est là, parce qu'il y a aussi le secteur du 04. Il va organiser des permanences, on distribue des flyers. Moi, la semaine prochaine, je rencontre le maire, je déjeune avec le maire pour voir comment on peut améliorer encore cette communication. Et pour nous, c'est très, très important, ce travail.
Rémi Charpie, concrètement, comment ça se passe si on veut être adhérent de ces mutuelles communales ?
Eh bien, il s'agit de contacter d'abord la mairie, puisque la mairie a fait les informations, comme Jean-Claude vient de le dire. Là. Ensuite, il y a des permanences qui sont mises en place par les mutuelles de France auxquelles les administrés peuvent aller s'adresser, aller rencontrer. Et ensuite, ben, ils signent les contrats. Alors, généralement, il y a trois types de contrats qui sont proposés de différents niveaux et en fonction des moyens. Puisque, comme le disait Jean-Claude tout à l'heure, là, c'est essentiellement ouvert à des personnes qui ne sont pas couvertes par des contrats collectifs, qui se retrouvent seules. Et où la cotisation mutualiste est, comment dire, peut représenter un coût extrêmement important. Alors, qui on va retrouver parmi ces personnes ? Donc, les personnes seules, ça peut être des veuves, ça peut être des personnes qui sont sorties d'un contrat collectif, ça peut être des jeunes en situation de précarité ou des jeunes étudiants qui ne sont pas obligatoirement couverts au niveau de l'université.
Est-ce que ça peut être également des primo-arrivants, par exemple ?
Oui, bien sûr, bien entendu, tout à fait. C'est un des rôles, c'est de permettre d'avoir une complémentaire santé qui facilite l'accès aux soins. C'est ça l'important.
Comment est-ce qu'on fait savoir à nos auditeurs pour vous joindre et bénéficier de ce dispositif ?
Il y a une démarche qui est plutôt simple, c'est aller sur le site internet des Mutuelles de France. Et vous allez sur un moteur de recherche, Mutuelle de France Alpes du Sud. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a deux cibles importantes pour nous dans notre démarche sociale. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pourraient bénéficier de ce qu'on appelle la complémentaire santé solidaire, l'ancienne CMU, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leurs droits. Et donc, nous, le travail qu'on fait, quand on reçoit les gens dans les mairies, dans nos permanences, bien évidemment, le conseiller mutualiste, il a pour objectif de voir si ces personnes-là peuvent rentrer dans le dispositif. Et on s'aperçoit qu'on a beaucoup de gens qui viennent nous voir, qui n'ont pas de mutuelle du tout et qui pourraient bénéficier de la C2S, et on leur permet d'y accéder. Donc, on fait un travail social. Et la deuxième cible qui est importante, c'est que quand vous partez à la retraite, je crois que c'était arrivé il n'y a pas longtemps, quand on part à la retraite, tant qu'on est en activité, notre cotisation mutualiste, elle est prise en charge en partie par l'employeur. Dès qu'on quitte l'entreprise, au bout d'un certain temps, l'entreprise ne prend plus en charge. Donc il y a une rupture et il y a beaucoup de retraités de faibles ressources qui ne se mutualisent pas. Et ça, c'est une erreur fondamentale quand on sait le rôle que joue une complémentaire santé en complément de l'assurance maladie obligatoire. Donc c'est la deuxième cible dans cette démarche. On n'y va pas vraiment pour faire du pognon, comme on dit. Excusez-moi de parler comme ça. On y va surtout dans une démarche très sociale. Après, il y a des gens qui ne sont pas contents de leur mutuelle parce que leur mutuelle a beaucoup augmenté. Ils considèrent qu'ils payent trop cher. Et là, on leur propose, comme l'a dit Rémi, il y a 3 ou 4 offres. Et c'est des offres qui sont tout à fait accessibles pour le grand public.
Je m'appelle Jean-Luc de la Fontaine et avec mon accent, vous avez reconnu que je viens un peu de Belgique. Donc on a surtout fait un gîte qui est un concept. Alors alter ego, si on peut le mettre en un mot ou bien on peut le décomposer en plusieurs mots. Les gens viennent chez nous le temps de faire une halte, prendre le bon air et après ego parce qu'il faut laisser la place au suivant parce que voilà, il ne faut pas être égoïste pour ça.
Un gîte un peu particulier avec des matériaux écologiques.
Alors, on a voulu le faire particulier à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il a été fait en autoconstruction et moi, je ne suis absolument pas du métier. Et on l'a fait surtout aussi en chantier participatif parce qu'on a voulu que ça serve de cas d'école pour faire des apprentissages et mêler justement des artisans avec des gens qui sont venus un peu de partout, du Canada, d'Angleterre ou bien de France, pour apprendre des techniques. Et d'autre côté, on a notre volet qui nous intéresse vraiment, c'est le volet sociétal. Et là, on a fait beaucoup de choses pour les personnes PMR. Ce sont les personnes à mobilité réduite. Mais maintenant, on va aller plus loin. Et plus loin, c'est essayer de promotionner que les gens valides puissent, au lieu de faire la publicité simplement, de cotiser quelque part dans une cagnotte leur contribution publicitaire. Donc, on ne payera pas une commission à Booking ou à Facebook, mais c'est les gens qui viennent chez nous qui vont rétribuer la commission qu'on aurait donnée à des agences pour des œuvres sociétales.
Donc, quel est ce projet ?
Donc, le projet, c'est que si des personnes arrivent jusque chez nous pour passer une semaine en vacances, on a maintenant 3 associations locales qui vont leur offrir ce qu'on appelle un moment de répit, que ce soit aussi bien pour l'aidant que pour le bénéficiaire, que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit au niveau simplement, ben, les gens ont décidé d'aller au restaurant et d'avoir juste un petit moment pour souffler, eh ben, il y aura quelqu'un de diplômé qui pourra tenir les enfants. S'ils ont envie de faire une activité ludique ou amusante, par exemple d'aller faire un trail dans la montagne avec une personne en chaise roulante, au départ vous allez me dire, mais il est fou, eh ben, avec la géolette c'est génial. Et là on a une association qui va encadrer ce genre d'activité. Là.
Pour l'instant, il y a ce gîte qui est situé à Marcousse, un village près de Digne.
Tout à fait, on est juste à côté de Digne. On est en même temps aussi au cœur du géoparc et comme on est partenaire, ben, l'idée ben, c'est vraiment que les gens viennent en vacances et puissent découvrir quelque chose. Mais on veut aussi que les personnes PMR, donc qui ont un peu moins de facilité à se déplacer, puissent aussi profiter de cette région parce que sinon ben, c'est un peu dommage.
Parce que tout est équipé pour l'accès aux handicapés, aux personnes à mobilité réduite.
En tout cas, le bâtiment était pensé tel quel, dans le sens où même l'accès à la piscine, puisque malheureusement, ben, le terrain, il y a une grande déclinaison chez nous. Et on a plus de 1 mètre de décalage en hauteur. Et en fait, on a fait tout un chemin d'accès par un autre côté pour le bâtiment. Et comme ça, même les personnes en chaise peuvent aller vers la piscine. Alors bien entendu, là, il faudra les accompagner pour la piscine. Mais je dirais, on a essayé de faire un peu plus que ce que la loi nous demandait. Et surtout, le plus, c'est d'avoir pensé d'offrir des annexes au séjour et pas simplement penser « Ah, ils sont là, donc ok, maintenant c'est bien. » Non, on va en faire un peu plus. L'idée, c'est vraiment d'avoir 3 associations. Et là, on va essayer de mettre en avant une association qui va aider les jeunes enfants handicapés, une autre association pour les adultes handicapés et des handicapés qu'on ne pense peut-être pas tout le temps parce qu'ils n'ont pas cette terminologie, mais ce sont des personnes âgées, isolées. Elles souffrent aussi d'une autre forme d'handicap et si on pouvait aussi leur amener un séjour, ça serait pas mal non plus. Donc ça serait les 3 types d'associations qu'on veut aider par notre biais de sponsoring et en tout cas c'est vers ça qu'on va aller.
Ces associations, vous les aidez en faisant une part de ce que vous gagnez du gîte. Comment ça va se financer tout ça?
Ça sera fait de manière très simple. En fait, quand vous quittez un endroit, beaucoup de gens demandent de faire une recommandation sur Google et entre guillemets, ça peut aider un peu d'autres personnes à y venir. Maintenant, on sait très bien qu'il y a des recommandations qui s'achètent ou des choses ainsi, donc ça n'a pas vraiment de vraie valeur. Nous, ce que l'on va faire, c'est si on passe par une application qui était spécifiquement étudiée pour ça, et les gens en fait vont introduire leurs coordonnées et ils vont partager ce lien à leurs amis. Si une personne de leur connaissance loue le gîte chez nous, la commission de 7% sera rétribuée à cette association-là. Quand la cagnotte sera assez élevée, là, on transformera cette cagnotte en un séjour. Donc moi, ça me coûte une commission que j'aurais payée à Booking ou à Airbnb ou quoi que ce soit. La personne qui fait la publicité, ça ne coûte absolument rien. Et surtout, la personne qui va en bénéficier, ça ne lui coûtera rien non plus. Et donc ça, c'est vraiment, pour moi, de l'économie sociale et solidaire.
Ça, ça fait partie du premier projet que vous avez. Et il y a un deuxième projet par rapport à la construction.
Alors, dans la construction, c'est un peu pareil. On a reçu énormément de choses, des bénévoles, et on voulait aussi repartager. Et on s'est dit, mais quand on regarde sur Internet des gens qui veulent construire, ils sont perdus. Parce qu'ils ne savent pas se poser des questions. On voit même qu'ils partagent des plans sur Internet et qu'ils nous demandent d'avoir un avis. Mais je dis, moi, je ne vous connais pas. Je ne sais pas comment vous vivez. Je ne sais pas quels sont vos besoins. Est-ce qu'il y a quelqu'un en chaise roulante chez vous? Je ne sais rien. Vous demandez de juger à votre place la maison de vos rêves à vous. Je dis, mais il y a quelque chose qui est un peu hallucinant. Par contre, si maintenant vous savez exactement ce que vous vouliez et que vous avez une question technique, là, demandez l'avis à des gens sur Internet, vous aurez plein d'avis. Donc, ce que je propose aux gens, en fait, c'est de balayer toutes les étapes qu'il y a en amont d'une construction, que vous la fassiez vous-même, que vous passiez par un entrepreneur pour faire une maison tout à fait prête à rentrer dedans, ou bien, troisième possibilité, c'est ce que j'appelle un mode hybride. C'est un mode fort à la mode pour l'instant. Et en fait, vous allez passer par les artisans qui vont faire ce qu'on appelle le hors-d'eau hors-d'air. C'est-à-dire que sur la maison, il y a des toits, il y a des fenêtres, donc toute la maison est prête à rentrer dedans, sauf qu'à l'intérieur, il n'y a rien. C'est une carcasse vide. Eh bien, vous ferez du prêt à achever vous-même. Et on sait très bien que les matériaux ont fameusement augmenté. Mais plutôt que d'avoir des matériaux moins agréables au niveau de la nature, ben à ce moment-là, vous mettrez des matériaux plus chers. Par contre, vous allez faire une économie terrible au niveau de la main-d'œuvre. Et pour vous accompagner, ben on a aussi des professionnels qui sont là et qui vont vous amener aussi des bénévoles qui vont venir de manière pédagogique apprendre sur votre chantier. Et on va créer de nouveau de la solidarité entre l'être humain. Et je crois que l'être humain est au centre de tout notre projet.
Ces conseils, ça se paye quand même?
Alors, la formation en e-learning, donc apprentissage sur Internet, elle est vendue à 1 000 euros. Pour la totalité de ce qu'on propose, il y a plus ou moins une trentaine d'heures de formation, ce n'est pas grand-chose. Et surtout, là, vous avez tout un réseautage avec des professionnels locaux. Donc, on a même un architecte de Digne, on a des gens de la région, on a des gens qui viennent d'un peu plus loin aussi. Et l'idée, c'est vraiment de transmettre un savoir. Après, une fois qu'ils travaillent, des professionnels, bien entendu, ils auront encore des coûts à payer, parce qu'ils ne viendront pas gratuitement. Mais la partie des gens bénévoles, ça, c'est entièrement gratuit. Et on va créer une économie solidaire. Alors, ce n'est absolument pas du travail en noir, c'est plutôt de l'éducation aux gens, parce que de toute façon, celui qui voulait faire sa maison lui-même, il la fera. Mais aussi, il le fait, mais accompagné. Et quand on est déjà accompagné, on n'est pas tout seul.
Je m'appelle Marie Blanche-Giem. Je suis porteuse du projet La Nébuleuse France, qui est une entreprise de thérapie par la programmation neurolinguistique spécialisée donc pour ces messieurs.
Par rapport à la PNL, c'est ce qu'on appelle la PNL.
Exactement, donc je travaille principalement avec la PNL pour faire de la gestion traumatique, mais également de la gestion du stress et de la préparation mentale pour les sportifs de moyen à haut niveau. Et en fait, je fais de la thérapie sur le business model américain, c'est-à-dire que j'offre des bons points, si je puis dire, à mes patients, parce que c'est eux qui font tout le travail après sur mes conseils au fil des séances. Et voilà, tout simplement. Donc, l'objectif de la Nébuleuse, c'est de monter toute une communauté. C'est vrai que la promesse de la Nébuleuse, c'est donc de mettre des dates sur les rêves afin que ça devienne des objectifs. Et ensuite, on vous accompagne là-dedans.
C'est une association toute nouvelle?
C'est pas vraiment une association. Disons que c'est plus une entreprise. Voilà, et la Nébuleuse, parce que c'est ce qui crée les étoiles et que l'objectif, c'est qu'on se retrouve tous dans notre unicité et dans l'appréciation de nos émotions les plus profondes.
Un téléphone, une adresse, un site?
Bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, c'est la.nébuleuse.fr, et sinon directement par mail à l'adresse suivante, donc mb.giame@icloud.com. Et également sur internet au www.nébuleuse.com.
Je suis Lola Vera, responsable alimentation pour nos programmes Silver Fourchette et Les Enfants Cuisine sur la PACA. Silver Fourchette pour les seniors, Les Enfants Cuisine pour les enfants et les jeunes. On travaille autour des questions d'alimentation durable, équilibrée et adaptée à chaque âge, à chaque situation. Et également, on a cet aspect santé, prévention santé. Donc, on va organiser pour ces différents publics des actions de prévention collective ou alors aller dans les établissements, dans les milieux scolaires, dans les établissements médico-sociaux, travailler en fait pour le grand public et tous ceux qui cuisinent pour eux.
C'est une association nationale?
C'est une association nationale qui va travailler au local, du coup, avec des partenaires dans chaque territoire.
Et sur la région PACA, justement, est-ce que vous intervenez?
Oui, On intervient du coup très fortement dans les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, anciennement les Hautes-Alpes, et on espère bientôt aussi ici dans le 04 pouvoir mener nos activités également. Donc on est vraiment mobile, parce que l'idée c'est d'aller à la rencontre d'eux, et voilà, quand on a des partenaires qui font appel à nous, et ben on se déplace et on vient organiser avec eux des actions sur l'alimentation durable.
Des exemples d'alimentation durable, qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux enfants et par rapport aux seniors?
Oui, alors du coup, nous, l'alimentation durable, ça fait sens. Enfin, c'est l'alimentation aussi d'aujourd'hui, de demain, qui doit évoluer et qui doit tenir compte de l'importance en fait de son alimentation, ce qu'on met dans son assiette pour sa santé, mais aussi pour la nature, pour la planète. Donc à travers toutes nos actions, on va prôner des produits de saison, des produits locaux quand c'est possible, et aussi une agriculture raisonnée, voire bio. C'est vrai qu'on le met le plus possible en avant. Après, bien sûr, on tient compte des milieux sociaux, de l'accessibilité aussi des produits, des budgets, et on va travailler autour de ça pour proposer du coup l'alimentation la plus adaptée à chacun.
Vos partenaires ?
Nos partenaires sont très nombreux. On va travailler avec les communes, les centres sociaux, les épiceries solidaires, les écoles, les EHPAD, les services d'aide à domicile, tous les réseaux aussi qui travaillent sur les thématiques des aidants familiaux. Et puis après, on a tous les partenaires aussi opérationnels, les chefs cuisiniers, tous nos experts aussi santé qui travaillent avec nous. Et bien sûr, après, tous nos financeurs aussi qui nous soutiennent et qui nous permettent de proposer toutes ces activités gratuitement pour les bénéficiaires.
Et si on veut plus de renseignements sur votre évolution, est-ce qu'il y a un site ?
Oui, silverfourchette.org, lesenfantscuisine.org également. Et je ne sais pas si je peux laisser aussi mes contacts. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Donc je suis Lola Vera, lola.veyrat@groupe-6sos.org ou au 06 42 20 83 16. Donc moi voilà, je m'occupe de tout ce qui se passe en PACA. Donc n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des envies de projet.
On le voit à l'issue de cette émission, l'économie sociale et solidaire est dynamique et variée. Permettez-moi de remercier Jérôme Martinez, Francis Kuhn et Chloé Dumont pour la ville de Digne, ma collègue dignoise Odile Frison et notre ami Super Alain, ainsi que toutes les personnes interviewées à ces assises et celles que nous avons croisées au Palais des Congrès. Comme l'a dit la maire de Digne, Patricia Granet-Brunello, on continue, on persévère. À l'année prochaine.